Le barbu qui parle RH, c'est du miel dans vos AirPods. Bienvenue dans le podcast qui vous révèle les secrets du monde du RH en 2024. Moi, c'est le barbu, Nico. Je travaille dans les RH depuis plus de 15 ans et je vous partage mon expérience à travers des clés et des interviews super stimulantes. Attachez vos ceintures, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va encore parler d'un sujet qui a été maintes et maintes fois abordé mais surtout on va le prendre sous un angle particulier. On va parler de marque employeur et on va vous donner les billes et les astuces pour créer une stratégie de contenu qui déchire. Et pour parler de ce sujet et pour vous donner les billes, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Anaïs Ledigarcher. Salut Anaïs, comment ça va ?
Eh bien ça va super, ravi d'être à tes côtés.
Je suis trop content de t'avoir avec moi, content de te choper au pied de, à la sortie de l'avion.
Littéralement.
Parce que tu viens d'arriver de Manchester.
C'est vrai.
Donc je suis trop content de t'avoir. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et après, boum, on rentre dans le vif du sujet parce qu'il va falloir donner de l'actionnable pour donner à toutes les personnes qui nous écoutent comment on fait une stratégie de contenu qui déchire, toi, la spécialiste du sujet.
C'est parti. Bah, écoute ça, alors moi c'est Anaïs. Ex-recruteuse, j'ai évolué dans le recrutement pendant une petite dizaine d'années, principalement sur la région bordelaise, en interne, en externe, en cabinet. Et puis, ça fait maintenant 4 ans que j'ai quitté Bordeaux pour la merveilleuse ville ensoleillée de Manchester, n'est-ce pas ?
Manchester Strass, Manchester Paillettes, Manchester Soleil.
Voilà, bon, plutôt gris, hein, mais bon, on va pas trop mentir quand même aujourd'hui, c'est pas trop le sujet, justement. On va plutôt basculer dans l'authenticité, on va essayer. Donc, Manchester depuis 4 ans, et puis ça fait maintenant 3 ans que je suis à mon compte et que j'évolue plutôt justement sur le sujet de la marque employeur, dans un premier temps sur de l'accompagnement, de la formation auprès des entreprises. Et puis maintenant, ça fait à peu près un an que j'ai vraiment fait le pivot de me consacrer uniquement à la création de contenu, notamment sur le sujet marque employeur. Alors, pas que, parce que moi, je travaille avec deux publics différents, à la fois les solutions qui veulent parler à leur communauté RH, avec du contenu voilà, dédié aux RH, comme des ATS, des job boards, des médias RH, entre autres. Et l'autre public, c'est l'entreprise, en fait, dans sa, voilà, les entreprises en général, qui veulent donc exprimer leur marque employeur, on va dire, à travers du contenu. Donc là, j'interviens aussi pour ces publics-là, voilà, pour te donner grosso modo... ce que je fais aujourd'hui.
Trop cool. Alors, en fait, t'es des deux côtés. T'es du côté entreprise, du côté fournisseur. Donc, ça veut dire que tu gravites vraiment autour de cet aspect de marque employeur, de travail RH. Et je vais te poser une première question pour un petit peu remettre le contexte avant de parler d'une stratégie de contenu qui déchire, comme on en a parlé. C'est, on parle de marque employeur depuis longtemps. On en parle tout le temps. Les choses évoluent. Moi, j'ai mon petit avis sur le sujet. C'est-à-dire que je trouve que les choses évoluent un petit peu plus depuis, on va dire, 12-18 mois, même si, tu vois, moi, j'ai monté iTeam il y a 12 ans maintenant. Ça fait 12 ans qu'on parle de marque employeur. À l'époque, une des premières agences qui avait créé la marque employeur sur les réseaux sociaux, c'était MyRH Community, qui existait, qui a été même montée avant iTeam. Donc, ça fait très longtemps qu'on en parle et j'ai l'impression que les choses avancent un petit peu. Depuis 12-18 mois, il y a peut-être eu un changement. Et je voulais avoir ton sentiment sur le sujet de la marque employeur. Est-ce que les entreprises ont conscience qu'il faut y aller en 2024 ? Je pense que oui. Mais où est-ce qu'elles en sont ? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ça ?
Je trouve ta question hyper intéressante parce que je te dirais une chose. Ce qui m'a justement poussée à ne plus former, mais à aller dans l'opérationnel et moi-même créer le contenu, c'est parce que j'observais que les entreprises le savent, en ont conscience, elles le veulent, mais elles n'arrivent pas à passer à l'action très souvent. Et moi, quand je formais, il y a encore quelques mois, j'ai arrêté la formation courant 2023, très souvent, post-formation, j'observais que les entreprises ne passaient pas à l'action. J'avais beau leur donner un plan d'action très précis sur voilà, maintenant, quand vous allez créer du contenu, allez-y, vous pouvez vous y mettre. Très souvent, j'observais qu'elles ne passaient pas à l'action. Donc, c'était très frustrant pour moi. Et en même temps, je me suis dit, je pense que c'est ça le constat aujourd'hui, c'est que beaucoup réalisent tout l'enjeu, toute l'importance d'être visible, de se rendre visible, mais elles ont des difficultés à s'y mettre parce qu'elles n'ont pas le temps. Le quotidien des RH est déjà bien fourni, puis c'est souvent aussi une collaboration entre le service com, marketing, RH, c'est compliqué à mettre en œuvre, il y a parfois une manque de ressources en interne. Donc je pense qu'elles ont de plus en plus conscience, c'est encore petit à petit, c'est encore progressif, mais elles ont encore du mal à passer à l'action. Moi c'est ce que j'observe en tout cas là aujourd'hui en 2024.
Donc pour toi, elles en ont conscience et ça on est bien d'accord, elles veulent le faire, mais en fait on le voit, hein, je pense que c'est aussi, enfin je sais pas ce que tu en penses, hein, mais je pense que c'est aussi un petit peu tous ces chiffres, tous ces baromètres qui montrent que les candidats aujourd'hui, alors c'est plus d'un point de vue, c'est assez marrant parce que on a tendance à voir la marque employeur toujours du point de vue candidat et non pas collaborateur, alors que la marque employeur joue énormément pour la fidélisation du collaborateur. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est le côté candidat, c'est le marché de l'emploi qui est tendu. Et comme on sait que 80-90% des candidats, je sais plus, enfin, en fonction des études, ça varie entre 85 et 95% des candidats se renseignent sur l'entreprise avant de postuler, les gens se disent, bah, tiens, il faut que j'y aille. Mais encore une fois, il y a des freins. Et donc, pour toi, les freins, c'est des freins plutôt structurels, c'est des freins plutôt d'argent, c'est des freins de quoi ?
Bah, ça dépendra des contextes, j'ai envie de te dire déjà. Pour moi, ça dépend pas mal aussi de la maturité des entreprises. Parce que tu as des entreprises qui sont moins matures que d'autres et du coup, les freins ne seront pas les mêmes. Et tu vois, je pense que ce que tu dis, justement, ça révèle un truc hyper important. C'est que oui, elles s'alertent. Généralement, c'est quand elles voient qu'elles n'arrivent pas à recruter qu'elles s'alertent. Et tu disais, tu parlais de l'interne, que ce n'est pas forcément le sujet de la fidélisation qui les inquiète en premier. Et moi, justement, tu vois, pour répondre d'une autre manière, je bifurque un peu par rapport à ta question, mais je pense que la difficulté qu'ont parfois les entreprises, c'est qu'elles ne prennent pas la marque employeur dans le bon sens, justement. Pour moi, la base de la marque employeur, c'est justement la fidélisation. Si tu n'arrives pas à fidéliser, derrière, comment tu veux recruter ? C'est ta base, en fait. Et en fait, aujourd'hui, quand on parle de marque employeur, et c'est là où je trouve qu'on a encore des progrès à faire, c'est que souvent, les gens, ils vont définir ça comme bah, justement les actions de communication qu'on fait à l'externe, c'est l'attraction des candidats. Mais en vrai, la marque employeur, ce n'est pas que ça. Là, il manque une moitié de la définition. La marque employeur, c'est déjà tout ce que je fais à l'interne pour fidéliser. C'est la mobilisation des collaborateurs à l'interne pour réfléchir ensemble à bah, où on en est, quelle est notre culture, quelle est notre proposition de valeur, etc. Bref, un audit interne, ça te parle forcément. Et une fois que j'ai fait tout ce travail, là, je vais le faire briller effectivement avec une communication externe pour attirer mes candidats. Et j'ai un espèce de beau cercle vertueux. Mais la grosse difficulté des entreprises aujourd'hui, c'est pas que structurel, c'est pas que financier, c'est aussi un problème de compréhension de ce qu'est la marque employeur. Je pense aussi, il y a aussi une part de ça. C'est le problème, enfin le sujet, pas le problème, mais le sujet, il n'est pas forcément pris dans le bon sens.
Je conçois hein, ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être très difficile à changer. Parce qu'au final, on s'en aperçoit, bon, moi je m'en aperçois avec Kitty, mais je m'en aperçois aussi avec Hawk, les collaborateurs sont pas forcément encore, même si on essaye de les remettre au centre du jeu, ils sont pas forcément encore remis au centre du jeu. Et il est clair et certain que si jamais on avait une vraie politique qui considérait les collaborateurs de formation, d'attention, d'expérience collaborateur et compagnie, déjà on aurait moins à recruter. Et donc forcément cette considération-là amènerait aussi potentiellement à un travail de la marque employeur parce que tu comprendrais que ça a un intérêt aussi sur le côté fidélisation. Et donc ça donnerait ce cercle vertueux comme ça. Mais est-ce que tu ne penses pas, et ça c'est un petit peu mon point de vue, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même un gros frein qui reste, même si je pense que les choses évoluent, il y a quand même un gros frein qui est le frein de l'aspect financier d'un point de vue un peu plus global, des chefs d'entreprise qui ont toujours du mal à voir que la marque employeur peut être intéressante. Je marque entre guillemets pourquoi ? Parce que pour moi, le frein financier peut être de deux ordres. Soit tu ne donnes pas de ressources internes pour pouvoir le faire, clairement, hein, c'est-à-dire que TRH, comme tu dis, ils ont plein de jobs déjà, ils ont déjà beaucoup plus de travail que ce qu'ils devraient en avoir, ils devraient déjà être mieux staffés, donc pour travailler de la marque employeur, il faudrait qu'ils soient encore mieux staffés, et ça ne peut pas marcher parce que les chefs d'entreprise se disent « non mais c'est bon, tu arrives déjà à faire tout ce que tu veux faire comme ça, pourquoi tu as besoin de recruter ?» ou parce qu'ils ne veulent absolument pas mettre de budget dans une agence externe et non bosser. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait quand même ce frein-là qu'il faudrait, on va dire, essayer de déverrouiller ce cadenas-là, qu'il faudrait déverrouiller en premier, parce que l'autre cadenas du collaborateur, même s'il est plus important à mon sens, il est aussi plus compliqué et plus difficile à faire déverrouiller.
Ouais, je te rejoins certainement. Après, moi, je t'avoue que justement, les entreprises aujourd'hui avec lesquelles moi je travaille, c'est des entreprises qui ont déjà passé ce cap, qui ont déjà passé ce blocage. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas confrontée à ces entreprises-là, celles que tu cites, qui ont ces difficultés et qui sont peut-être trop parasitées par l'aspect financier, parce que c'est un luxe quand on est à son compte. Mais moi, aujourd'hui, j'arrive à bosser avec des entreprises qui sont prêtes, déjà, qui ont conscience.
Je te rassure.
Voilà, tu vois. Moi, je me bats plus avec les entreprises qui en sont pas encore là. Enfin, j'ai pas l'énergie pour, je la laisse à d'autres qui font ça très bien et qui ont plus une posture de consultant et qui vont même plutôt être dans une posture de conduite du changement, tu vois. Moi, j'arrive une fois que ça y est, que ça s'est fait, que ces prises de conscience, elles sont faites. Donc, pour moi, ça m'est difficile de te répondre à ça, mais... En tout cas, moi, pour celles que je côtoie et qui ont passé ce cap et qui sont prêtes, je pense qu'elles elles ont bien compris l'intérêt, tu vois, au-delà de parce que c'est encore un peu compliqué aujourd'hui à comment dire, à mesurer, tu vois, l'impact d'une marque employeur. Il y a des KPI, etc., mais c'est encore un peu flou. Et je trouve que les entreprises, en tout cas avec lesquelles je travaille, elles arrivent à comprendre cet enjeu au-delà des métriques, cet enjeu de vraiment de visibilité et en fait de donner sur un plateau du contenu et des coulisses que les candidats attendent, parce qu'aujourd'hui, tu disais, bah, on a à peu près 90% des candidats qui veulent des coulisses, qui veulent voir les cultures d'une entreprise. Aujourd'hui, n'importe qui peut déjà aller voir ça. Tu vas sur Glassdoor, tu vas sur Google, tu lis des avis. Mais moi, si je suis une entreprise et que j'ai compris cet enjeu-là, bah, je vais pas attendre que les candidats
Bien
aillent
sûr.
se servir. Je vais leur ramener sur un plateau,
Bien sûr.
bah, tout ce que je veux qu'ils puissent savoir sur mon entreprise. Et j'ai beaucoup de chance, parce que je bosse avec des boîtes qui en sont déjà là et qui m'appellent pour ça. Voilà.
Mais malgré ça, il y a quand même des freins qui sont des freins de comment dire, de temps, qui font que de compréhension globale en fait de la marque employeur, comme tu disais, qui font qu'elles ont du mal à franchir le cap après.
Alors, plus maintenant, parce que c'est ce que je disais. Moi, en fait, quand je formais l'année dernière, oui, j'avais ces difficultés-là. Parce qu'une fois que, même si elles avaient beau être prêtes, elles avaient beau comprendre les enjeux, etc., derrière, elles n'avaient pas le temps ou elles n'avaient pas la ressource. Et les discours que j'entendais assez souvent en formation, parce que moi, j'étais confrontée à des publics RH recruteurs que je formais à la création de contenu, notamment sur LinkedIn. Et souvent, en fin de formation, on me disait, mais moi, j'ai pas envie, c'est pas mon boulot, quoi. J'ai pas le temps. Et en fait, moi, ça m'a fait tilt l'année dernière, parce qu'un jour, en fin de formation, une recruteuse m'a dit, mais Anaïs, pourquoi tu vends pas tes services? Fais-le, toi, pour les entreprises. Elle me dit, franchement, le nombre de RH qui n'ont pas envie de le faire, mais fais-le. Et en fait, bon, ça mûrit, ça fait son chemin, mais ce qui fait que je me retrouve avec ce luxe aujourd'hui, bah, d'avoir des entreprises qui sont en mode, bah, nous, on est prêtes, on n'a juste pas la compétence en interne, fais-le pour nous,
On y va avec toi.
et on le fait ensemble.
Ok. On voit que ces freins, ils peuvent être levés, qui sont levés, que les entreprises, en fait, sont prêtes à y aller. Donc, tout est là. Et bim, en même temps, il y a l'IA qui arrive.
La fameuse.
C'est ça. Bah oui, c'est ça. Tout le monde en parle. On fait le rapport, hein, je le dis assez souvent. Ça, en un an, il y a eu un boom, mais juste stratosphérique. Il y a 13 mois, 14 mois, on faisait un webinaire avec Nico Galita et Louis Deslus sur GPT. Personne ne connaissait rien. Aujourd'hui, tout le monde
Tout le monde
l'utilise. Tout le
connaît.
monde connaît, tout le monde
C'est vrai.
l'utilise. Pour toi, l'IA, c'est une bonne chose? C'est une crainte? C'est un concurrent? C'est quoi? Ça fait quoi pour la création de contenu?
Il y a beaucoup de questions dans ta
Ah,
question.
il y a beaucoup. En même temps,
Mais.
l'IA, on pourrait passer 4 jours dessus. Il n'y a pas de.
Bah, moi, l'IA, personnellement, je le vois pas comme une concurrence. Moi-même, je m'en sers pour certains contenus, notamment pour les articles, parce que je fais aussi des articles de l'article de blog. Ça me sert, par exemple, à structurer. Enfin, pour moi, c'est un assistant. Ça peut devenir un super assistant s'il est bien maîtrisé. Alors moi, je ne suis pas du tout une experte en IA, mais par exemple, ChatGPT, je m'en sers des fois pour structurer ou pour faire une révision de mes articles, tu vois. Donc moi, je le vois vraiment comme un outil, un assistant, un plus. Et je pense que ceux qui veulent pas justement tomber dans... Enfin, pour contraindre les craintes, je pense qu'il faut le prendre en main, il faut l'apprivoiser et en faire devenir un allié, en fait, cette IA. Mais après, ton autre question, c'était quoi? Oui, mais je pense pas que ça remplacera pour autant, tu vois, la patte humaine, parce que moi, je prends mon cas. Alors, certes, je crée du contenu, mais il y a quelque chose que n'a pas forcément l'IA, c'est l'expérience. Moi, aujourd'hui, je crée sur des sujets que moi-même j'ai expérimenté en tant qu'ex-recruteuse. Ça, je crois pas que l'IA puisse le faire à ma place. Elle a pas connu le terrain. Elle sait pas ce que c'est le quotidien d'un recruteur. Tu vois ce que je veux dire? Elle saura certainement créer, elle saura certainement utiliser la bonne accroche, le bon vocabulaire, etc. Mais est-ce qu'elle aura finalement l'expertise d'un sujet que moi, en revanche, j'ai en tant qu'être humain, tu vois?
Ah oui, tu prêches un convaincu, tu prêches clairement un convaincu. Je ne sais pas écrire mes posts LinkedIn avec de l'IA, c'est absolument impossible. J'ai essayé plein de fois. Je sais que l'IA est très intéressant pour, encore une fois, on en parlait potentiellement du SEO, des choses comme ça, pour débroussailler, pour pouvoir essayer de comment dire, de t'aider, de te donner des idées, des choses comme ça. Je le trouve très intéressant. Je trouve très intéressant aussi potentiellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour mettre un petit peu la main à la pâte à certaines personnes, c'est-à-dire des certaines personnes qui disent, tiens, qu'est-ce que je ferais? Boum, si tu leur apprends à faire un bon prompt d'IA, ils vont commencer à lire dessus, puis derrière, ils vont se dire, ah oui, tiens, oui, c'est vrai, ça peut être ça, et puis boum, ils vont refaire, et ça peut un petit peu les aider à se lancer un peu sur le sujet. Donc, je reste persuadé de ça, Maintenant, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'IA prise en main par les RH? Parce que quand je parlais justement avec des RH à la non-conférence du recrutement cette année à Bordeaux, je pense que dans l'assemblée, donc on a fait un gros atelier avec Mohamed, et dans l'assemblée, il y avait beaucoup de personnes, et quand tu demandais qui utilisait GPT, je pense que 90 personnes ont levé la main, et la majeure partie pour rédiger des annonces et pour faire des posts LinkedIn. Ouais, comme quoi, tu vois, donc ça veut dire que ça les aide beaucoup. Est-ce que pour toi, c'est justement un risque ou une opportunité le fait que les RH s'en servent pour faire du travail de création de contenu?
Bah, moi, je le vois comme un plus, parce que moi, dans mon cas, tu vois, si on parle que de LinkedIn, en l'occurrence, moi, je crée du contenu, par exemple, pour les pages d'entreprise. Je ne fais pas du profil perso. Moi, je crois beaucoup au fait qu'aujourd'hui, une entreprise, si elle veut se rendre visible, enfin, si elle veut rendre visible sa marque employeur, elle a tout à gagner à la fois à créer du contenu sur sa page entreprise et à la fois à ce que ses collaborateurs eux-mêmes prennent la parole. Donc, moi, je le vois comme une opportunité, parce que je me dis, demain, une boîte que j'accompagne, moi, je suis dédiée à sa page entreprise. Si demain les RH ou autres collaborateurs de la boîte se mettent à créer leur propre contenu, ils deviennent ambassadeurs de la marque et ça sert ce que je fais moi pour la page entreprise. Donc pour moi, c'est une opportunité, en tout cas dans mon cas. Après, pour quelqu'un qui crée du contenu, et j'ai des collègues qui le font, pour du contenu profil, tu vois, sur LinkedIn, bon ben là, moi je me prononce pas parce que c'est pas mon job, mais peut-être que pour eux, c'est peut-être un peu plus de la menace pour le coup.
Alors là, pour le coup, sur cet échange-là, je pense que pour moi, la partie IA est une opportunité pour les créateurs de contenu parce que de toute façon, comme tu le disais, il y a une patte, il y a un truc, il y a une expérience, il y a une connaissance que tu sais, que tu as, que l'IA n'a pas. Donc clairement, forcément, ça veut dire que tu seras différent. Tu seras différencié, tu seras différent. Et sachant qu'en plus, je ne sais pas si tu as vu le dernier rapport sur l'algorithme LinkedIn, qui disait que potentiellement, comment dire, les contenus faits à base d'IA avaient un reach inférieur à 30%. Alors,
Ah, ça savait pas du
c'était
tout.
potentiellement, parce que ça veut dire qu'il faut
Ah,
que l'algo
potentiellement quand même.
LinkedIn les décèle, tu vois. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il arrive bien à les déceler ou quoi? J'en sais rien. On sait dans tous les cas que c'est leur cheval de bataille, c'est-à-dire qu'ils vont aller dessus, ils vont essayer absolument comment dire, de s'en sortir, d'essayer de déceler justement quels sont les contenus faits par l'IA. Mais je reste persuadé que les vrais créateurs, les vraies créatrices, les vrais créateurs de contenu vont encore plus sortir leur épingle du jeu parce que la différenciation sera encore plus forte, étant donné qu'il y aura de plus en plus de créateurs de contenu, mais qui seront initialement faits par de l'IA. Bah, ça veut dire que ceux qui vont sortir leur épingle du jeu, ce sera ceux qui seront différents, comme ça a toujours été le cas,
Ouais,
quelle
bien
que soit la
sûr.
création, quoi.
Ouais. Et ça me fait penser au fait que, tu vois, moi je le vois aujourd'hui, mais les clients qui veulent bosser avec moi me prennent pas parce qu'ils ont comparé des créateurs de contenu, ils se sont dit, bon, ben, on va l'apprendre. Généralement, on vient à moi parce que bah, on m'a identifié, tu vois. Et ça, je me dis qu'une IA le remplacera pas parce que y a toute une part. La création de contenu, c'est un métier encore nouveau, c'est encore récent, c'est encore frais. Mais je pense qu'il y a une grosse part de personal branding là-dedans. Des boîtes ou des individus ont envie de bosser avec un créateur de contenu en particulier, très souvent, mais parce que bah, il l'a vu comme une référence sur un sujet, sur un domaine, etc. Et je pense que ouais, ça peut vraiment devenir un allié. Tu vois, moi, dans mon cas, je pense que je peux encore m'améliorer sur l'IA. Je ne suis pas experte, pas au top, mais moi, personnellement, je ne le vois pas du tout comme une menace.
Trop cool. Encore une fois, pas une menace. Non, mais c'est
Ça te
bien.
rassure?
Non, mais moi, ça me rassure parce que j'en suis
Toi, t'es
persuadé.
convaincu.
J'en suis persuadé, mais c'est bien parce que tu vois, on voit les choses évoluer petit à petit et on voit que, alors, on sait qu'il y aura des dérives, on sait qu'il y a des choses qui ne marcheront pas, on sait que l'IA va être mal utilisée. Comme toute évolution, comme toute révolution, on sait qu'il y aura des choses qui vont pas mal se passer. C'est comme ça. Et je pense qu'il faut l'accepter et l'anticiper et essayer de se dire, OK, on sait qu'il y aura des dérives, mais dans tous les cas, il faut qu'on essaye de le prendre en main pour faire en sorte de faire plus de choses bénéfiques qu'il y aura de choses mauvaises dessus. Parce que de toute façon, si tu en as peur, quoi qu'il se passe, ceux qui veulent mal s'en servir, eux, ils n'en auront pas peur, ils s'en serviront mal. Donc, c'est-à-dire que toi, fais en sorte de t'en servir correctement pour
Pour
pouvoir
en faire une
avancer. Ouais,
force.
exactement. On passe dans le cœur du sujet, parce que là, on t'attend fortement. Ah, attention. On parle souvent de tunnels, on parle de canaux d'acquisition, on parle du fameux tofu, mofu, bofu que beaucoup de gens connaissent maintenant. Mais pour toi, c'est quoi une stratégie de contenu qui déchire? Et comment on la met en place? Et comment on fait en sorte d'être différent des autres?
Ah bah, déjà, moi, je vais te dire un truc. Tu t'as dit, on parle beaucoup de tofu, mofu, voilà, j'arrive jamais à les retenir. Ben moi, ça, c'est des termes que j'emploie jamais avec mes clients, tu vois, typiquement. Parce que, bah, alors, souvent, j'ai des marketeurs en face de moi, mais il m'arrive de ne pas avoir des marketeurs, d'avoir des CEO, des recruteurs. Eux, ils ne connaissent pas ces termes-là. Donc, généralement, je vulgarise un peu. Et justement, pour moi, c'est la clé d'une stratégie de contenu. C'est effectivement, il faut du top of tunnel. Donc, il faut du contenu large qui parle à une cible large, certes. Mais c'est important aussi de la mixer avec du contenu plus expert. Parce que moi, aujourd'hui, c'est ça que je promets, entre guillemets, à mes clients. Je ne leur promets pas des leads. Je ne leur promets pas de se faire de l'argent grâce au contenu. Je leur promets de devenir une référence, tu vois. Et pour moi, pour devenir une référence, il faut effectivement du contenu large pour appâter, pour amener les gens à nous découvrir, à dire « Ah tiens, c'est curieux, c'est un sujet qui me parle. » Et s'il faut un sujet qui parle, il faut un sujet large. Mais il faut que derrière aussi, on garde l'attention de ceux que l'on veut viser, que l'on veut cibler avec du contenu plus expert, plus précis, quoi. Et moi, je pense que c'est un bon mix des deux. Et une stratégie qui déchire, alors ça fait une grosse promesse en le vendant comme ça, mais je pense que pour moi, il n'y a pas un contenu qui déchire. Il y a surtout un contenu qui doit vraiment être aligné à la fois... en fait, c'est un juste alignement entre celui à qui je parle, ma cible, il faut que ça lui parle, il faut que ça réponde à ses préoccupations, mais il faut aussi un alignement avec moi, avec l'émetteur du contenu. Donc, il y a vraiment un alignement entre l'émetteur, l'entreprise et la personne qui réceptionne le message. Il y a vraiment une question d'alignement. Pour moi, un contenu qui déchire, c'est ça. C'est quand tu réussis à la fois à garder l'empreinte, le ton de l'entreprise, qu'on arrive à percevoir ça à travers les contenus et qu'en même temps, ça parle à la cible que l'on vise. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair.
C'est très clair, mais alors ça va dans le sens un petit peu de ce que j'ai, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, j'ai tendance à dire, vous voulez faire un contenu qui déchire, soyez clivant. Faites en sorte de, pas outre mesure, tu vois, mais faites en sorte d'extrapoler un peu qui vous êtes. C'est-à-dire que pour moi, plus tu vas extrapoler qui tu es, plus tu vas forcément marquer ton empreinte de ce que tu représentes. Et logiquement, par rapport à ce que tu viens de dire, plus tu vas parler à ton récepteur, mais à celui qui te conviendra particulièrement. J'ai tendance à dire, vas-y, on clive, quoi.
Alors, moi, j'ai un peu du mal avec le clivant, je t'avoue. Moi, je suis plutôt une personne de nuance. Donc, le clivage, c'est pas du tout mon truc. Et c'est marrant parce que, tu vois, on a fait un live la semaine dernière sur LinkedIn avec Johanna Bouy, je sais pas si tu la connais, qui est coach pour les recruteurs. Et justement, le sujet est venu, on a quelqu'un dans l'audience, parce qu'on parlait de marque employeur, et quelqu'un dans l'audience disait, qu'est-ce que vous pensez du clivant, etc. Et donc, on se rejoignait un peu, elle et moi, sur l'avis qu'on a donné. Mais après, il y a clivant et clivant. Tu vois, j'ai un problème avec les posts, tu sens qu'il y a de la provoque, tu sens qu'il y a vraiment une volonté de créer du buzz. Moi, ces posts-là, pour moi, j'estime en tout cas que c'est pas pro et ça envoie pas les bons messages. En revanche, assumer une position, je sais pas, je dis n'importe quoi, je prends le cas de, je pense à Monster, qui est une entreprise qui se revendique à fond remote, full remote. Voilà, ils ont des posts, Romain de l'équipe marketing a des posts très assumés qui parlent de full remote. J'ai aucun problème avec ça. Pourtant, ça reste du clivant. Je parle de full remote, mais c'est parce que c'est sa posture et qu'elle est assumée avec son entreprise. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a un travail derrière de filtre. Tu filtres, en fait. Tu vois, c'est ça.
Non, mais c'est ça. L'objectif, c'est ça. C'est pas du clivant en mode on va faire du buzz. C'est vraiment du clivant en mode parce que ça marche pas, hein. Clairement, on est d'accord. Au contraire, ça fait plutôt l'effet inverse. C'est clivant en sorte, tu vois. Je trouve que pendant des années, et c'est encore trop le cas, tu vois, dans un marché de l'emploi qui est en tension, les gens ont tendance à vouloir faire du. On va essayer de faire plaisir à tout le monde. On va essayer de dire à tout le monde. Ouais, c'est ça. On va essayer de dire à tout le monde. Bah oui, mais c'est bien. Et puis chez nous, c'est un peu comme ça. Et puis c'est un peu comme ça. Et puis c'est un peu comme ça. Et puis au final, tu arrives. Et puis tu rentres dans l'entreprise. Et puis c'est pas vraiment comme ça. Tu es un peu déçu. Et puis tu parles au final un peu trop à tout le monde. Donc comme tu parles à tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est vraiment, comme tu dis, ce que Romain fait sur Monster. C'est-à-dire que, boum, tu assumes qui tu es et tu renforces. Tu vois, tu exhaustes un petit peu qui tu es, tu le forces un petit peu, même s'il faut, pour pouvoir dire, nous, on est comme ça, quoi. Donc, du coup, on s'assume, on est fort et on est ce qu'on représente.
Ouais, je suis complètement d'accord. Vu comme ça, oui. C'est juste que, tu sais, des fois, t'en as, ils parlent de clivant et oui. Ils mettent pas la même chose derrière. Mais ça, bon, je suis d'accord. Alors, moi, je parle pas de clivant, tu vois, je vais parler de... Je sais pas comment je dis ça d'ailleurs. Moi, je vais vraiment être dans le je pousse en tout cas mes clients à leur dire, voilà, ce qu'on va dire, il faut que ce soit vraiment le reflet réel de ce qui se passe chez vous, tu vois. Il y a vraiment cette envie de... tu vois, j'ai eu le cas l'année dernière d'une boîte qui m'a contactée, avec qui je n'ai pas bossé au final, mais on ne va pas dire qui c'est, mais l'entreprise m'a sollicité pour faire de l'article ambassadeur, tu vois, des articles interview pour mettre en avant des ambassadeurs de la marque. Et il y avait beaucoup de red flags, dont un red flag où c'était, on m'avait dit... il faudra faire attention à ce que tu mets dans les articles. On veut que ça plaise aux candidats. Tu vois, c'était ça le discours. C'était, faudra que tu veilles bien à ce que tu dis dans l'article, soit des choses qui intéressent les candidats. On sait qu'aujourd'hui, les candidats, ils veulent ça, 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 ça. Il faut bien que dans l'article, ça transparaisse. OK, mais moi, bah, réflexe, c'est une des premières étapes quand je commence à bosser avec un client. Je leur ai dit, OK, bah, dites-moi, vous, aujourd'hui, c'est quel en est... Non, j'arrive pas à faire cette phrase. Qu'en est-il dans votre entreprise? Est-ce que, bah, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour, justement, pour plaire aux candidats, comme vous dites? Et en fait, c'était pas du tout... Enfin, c'était pas aligné avec ce qu'ils voulaient faire paraître dans ces articles. Donc, j'ai dit, bah, non, en fait. Là, c'est hyper contre-productif. C'est encore pire, ce genre de comportement. Donc... je peux que aller dans ton sens, ça c'est clair. Il y a un travail de mise à plat.
Ouais, complètement. Et donc du coup, ça va être ma question, parce que là, tu m'as tendu une perche sans le savoir. Ah. Pour toi, c'est quoi les étapes vraiment à franchir pour mettre en place une stratégie de contenu efficace? Alors, ouais. Moi, j'ai fait plusieurs podcasts dessus, j'ai fait plusieurs vidéos et tout. Mais toi, c'est quoi pour toi les différentes étapes à franchir? S'il y avait 3, 4, 5 étapes...
Je vais pas être très original, ça se trouve.
Mais c'est bien, mais parce que potentiellement, ça va réaffirmer. Tu sais, je trouve qu'il y a un truc qui est important pour faire avancer ce qu'on veut faire avancer, c'est-à-dire le travail de la marque employeur, la prise de conscience et tout. Bah, c'est de répéter les choses. De temps en temps, c'est différent. Donc, du coup, ça ouvre l'esprit. Puis de temps en temps, c'est pareil. Ça dit à tout le monde, bon, bah, à un moment donné, si on est tous d'accord, peut-être qu'il faut aller dans ce sens-là. Quoi.
Ouais. Bon, bah, du coup, après, tu me diras, tu me partageras tes pratiques à toi. Mais alors, pour moi, l'étape numéro une, la base, c'est déjà de conduire un audit. Enfin, en tout cas, faire un mini-audit. J'aime bien parler de mini-audit parce qu'on n'est pas non plus dans l'audit où tu remues tout de fond en comble. C'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, un mini-audit où, en gros, on va mettre à plat quelle est la culture de l'entreprise. Quelle est sa proposition de valeur, où on en est, voilà, quels sont les avantages proposés aux salariés. Bref, on va tout mettre à plat de ce qui se passe à l'interne. Pour moi, c'est la première étape. Déjà, c'est ça.
Définition de l'EVP.
Ouais.
Comme
l'EVP, comme Arnaud Douane.
Ouais.
On va mettre à plat ça. Alors, je vais pas... Moi, je me positionne pas du tout en tant que consultante où je vais repérer des trucs qui vont pas et on va travailler dessus. Ça, c'est le boulot d'un Arnaud Douane, tu vois. Moi, mon boulot, c'est OK, on met à plat tout ça. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi votre culture? Qu'est-ce que vous proposez à vos salariés, etc. OK, déjà, on commence déjà à avoir de la matière. Parce que déjà, si tu arrives à mettre en lumière quelle est la culture, quel est l'EVP, déjà, moi, j'ai les idées qui commencent à pop, 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 à fuser dans la tête. OK, j'ai une idée, on va parler de ça. OK, on va parler de ça. On commence à nourrir la ligne éditoriale pour le futur. Donc, il y a ce travail-là de mise à plat. Et après, je pense que c'est important de le conjuguer avec un travail sur la cible. OK, à qui on va s'adresser? Numéro 2, les personas. À qui on parle? Alors, selon la configuration. Là, en ce moment, j'accompagne un collectif de recruteurs. Bon, eux, ils n'ont pas qu'un persona parce qu'ils parlent à la fois à leurs potentiels clients qui ont besoin de recruteurs. Ils parlent aussi aux candidats. Et ils parlent aussi aux potentiels recruteurs qui voudraient rejoindre leur collectif. Tu vois, on a 3 persona. Donc ça, c'est un travail hyper important parce que tu vas pas faire passer les mêmes messages. Bon, je vais pas te convaincre si tu connais l'histoire, mais pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est important de savoir à qui on va parler parce que les messages vont différer d'un personnage.
Et ce qui est super important, et je le rappelle, parce que pour l'instant, on est complètement en phase. Les deux premières
étapes, c'est pas... Je suis pas très original.
Non, ça va très bien, ça va très bien. Mais là où on va faire un gros rappel, c'est que souvent, les entreprises ont tendance à recruter un profil en se disant, voilà, je vais recruter un profil professionnel. Mais ils ont du mal à se projeter sur le fait que ce profil professionnel a potentiellement plein d'aspects personnels différents. Et donc, du coup, tu vas... Même si ton message, entre guillemets, sera à peu près similaire sur la promesse que tu vas donner... Mais il va différer parce que tu ne vas pas forcément justement jouer sur telle ou telle ou telle promesse. Tu ne vas pas jouer sur les mêmes canaux parce que tu ne vas pas toucher les personnes de la même manière. Et ça, ils ont tendance à l'oublier, quoi. Souvent, ils disent « Ah bah tiens, je recrute ça, bah tiens, je vais le diffuser là-dessus. » Ah oui, mais non, mais ton poste, là, il peut correspondre à un jeune urbain de 30 ans, comme il peut correspondre à une femme, maman d'enfant de 45 ans. Il peut correspondre à, enfin, tu vois, il peut correspondre à plein de personnes différentes qui n'auront pas les mêmes objectifs, pas les mêmes buts. Et toutes ces personnes-là, il faut pouvoir les déceler. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'était juste pour faire la petite parenthèse. Le travail des personas est primordial pour moi, clairement.
Clairement. Et après, un troisième aspect qu'on va travailler aussi, c'est puisque moi, j'accompagne une partie de ma clientèle, c'est des entreprises qui veulent exprimer leur marque employeur sur du contenu. Bah, il va y avoir un troisième volet où moi, je vais les challenger pour mobiliser les collaborateurs. Donc, tu vois, par exemple, bah, là, sur le cas d'Achille, je reprends ce cas parce que c'est en ce moment, c'est avec eux que je bosse sur des posts LinkedIn. Une fois par mois, je leur donne des idées ou des fois on réfléchit ensemble, on fait une réunion édito ensemble et on se dit ok, ce mois-ci voilà sur quoi on peut challenger les membres du collectif. Ce mois-ci, alors par exemple le mois dernier, c'est ce qu'on a fait, c'était partagez-nous vos anecdotes avec des candidats. Donc on a un canal, enfin ils ont un canal parce que moi je suis l'intermédiaire, mais ils ont un canal sur Teams où ils vont récolter, tu vois, les anecdotes. Donc après, Romain avec qui je bosse, il me fait le relais et moi je transforme ça en contenu, tu vois. Donc il y a vraiment cette partie qui est hyper importante. Pour moi aujourd'hui, tout à l'heure ta question c'était une stratégie qui déchire. Alors en termes de marque employeur, tu peux pas faire l'impasse sur les contenus qui vont mettre en valeur les personnes qui font ton entreprise aujourd'hui. Après, il y a plein de formats à explorer. Moi, je fais aussi de l'article interview. Je fais donc du post LinkedIn. Toi, je sais que tu dois faire d'autres choses, que d'autres formats aussi. Pour moi, il ne faut pas faire l'impasse sur ça. Si tu le mets de côté, parce que moi, je vois encore des boîtes aujourd'hui qui ne sont pas encore à l'aise, tu sais, sur le fait de montrer les coulisses, de montrer les gens qui font l'entreprise. Il y en a qui ne sont encore pas tout à fait à l'aise, mais c'est dommage.
On va te piquer l'idée de l'anecdote prise sur les trucs parce que je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on parle pour les entreprises, nous on le fait, on a tendance souvent à faire du contenu, à trouver du contenu qui soit intéressant et tout. Mais finalement, chercher aussi du contenu. Alors, tu vois, je trouve ça intéressant ton approche parce que on ne l'avait pas forcément. Soit on demande aux personnes d'elles-mêmes agir, tu vois, en tant qu'employé advocacy, soit on demande à l'entreprise d'avoir une image. Mais le fait que l'entreprise parle aussi un petit peu de l'employé advocacy, tu vois, c'est un aspect qu'on a un petit peu de mal à mettre en branle.
Ouais.
Et je trouve ça assez intéressant parce que généralement, on le met sur des sujets plutôt vidéo ou autres et on peut le mettre au final sur plein de sujets.
On peut le faire, nous, on le fait à travers du poste avec Achille. Tu vois, on l'a fait encore il n'y a pas longtemps. On s'est dit, tiens, la flexibilité, c'est un sujet très fort. Là, on était sur un poste typique top of tunnel. Tu vois, on parle flexibilité. Ce n'est pas très original, ouais. C'est le sujet. Mais on s'est dit, on va faire mieux que ça, on va pas juste parler flexibilité, on va mobiliser les membres pour parler de ce sujet. Et donc là, je leur ai dit, allez, on fait un challenge photo, dites à vos membres que chacun envoie sa petite photo de son contexte, d'où il bosse, etc. Et ça a donné lieu à un post avec une photo, avec une mosaïque de membres. Donc on voit des gens, on voit des lieux, et hop, on parle flexibilité. Et là, tu vois, t'as un mix de, on fait du top of tunnel, on mobilise des ambassadeurs, on a de l'image des gens sur des photos, enfin... Et on met en avant ce que propose un collectif comme Achille, tu vois.
Super intéressant. Mm. Très bonne idée. Peut-être qu'on va te l'appliquer.
Non, mais okay. Moi, je suis très partageuse. Enfin, je trouve que c'est un... Non,
de toute façon, c'est la base.
Et puis, j'ai rien inventé, je veux dire...
La base, c'est de s'inspirer de ce qui se fait à droite, à gauche. De toute façon, aujourd'hui, j'en viens à dire, au final... Il y a peu de choses qui sont réellement inventées. C'est souvent, en fait, des adaptations de ce que tu as vu, tu vois.
Enfin, tu as des inspirations dans le quotidien, sans t'en rendre compte.
C'est ça qui fait l'invention, au final, tu vois. On est bien d'accord. Donc, on a dit définition de l'EVP, définition de VP, ADN, valeur, tout ce que tu veux. Définition des personas.
Ouais.
Ramener les collaborateurs à amener à créer du contenu, à t'engager. Tu vois quelque chose d'autre?
C'est déjà pas mal pour les bases. Bon, après, il y a encore plein de choses à faire, c'est pas terminé. Mais en tout cas, sur les premières étapes, sur la base, moi, c'est ce qui me vient en tête. Et après, les steps suivants, c'est de construire une ligne éditoriale, décider d'une ligne éditoriale, définir un calendrier, une fréquence. Enfin, il y a plein d'autres paramètres derrière à prendre en considération.
Et déjà, si on part sur ces trois bases-là,
déjà, c'est pas mal. Disons que c'est des bonnes bases, c'est des bases solides.
Ouais, j'en rajouterais une entre les personas et le fait de faire travailler les collaborateurs. C'est peut-être que le travail de l'EVP et des personas, normalement, doit t'amener à bien choisir tes canaux de diffusion.
Ah oui,
parce que là, on a parlé essentiellement...
Là, j'en parle pas parce que moi, je bosse toujours sur les mêmes canaux. Enfin, ouais, tu vois. Mais oui, bien sûr.
Je rajouterais juste, on travaille, on choisit les canaux et après, on engage.
Ouais.
Donc, ça veut dire que derrière, normalement, on a une bonne base pour travailler. Et après, comme tu dis, on voit ce qu'on fait, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on fait de la vidéo, est-ce qu'on fait appel à ci, à ça ou quoi. Mais au moins, on a une bonne base, une bonne structure de base pour avancer.
Je suis d'accord.
Mais tu vois, ça, c'est une stratégie, c'est des étapes, tu vois, qui vont faire qu'on va être en plein, c'est une stratégie qui déchire. Je vais te poser une dernière question. Comment tu la vois, la marque employeur, en 2034? Parce que là, tu vois, on a parlé d'évolution de la marque employeur, donc les boîtes y viennent. Apparemment, il y a eu un gros changement qui font qu'elles se lancent en même temps que l'IA. Et ça va nous donner quoi, tout ça?
Alors, moi, je vais te dire, là, et après, j'aimerais bien que tu me dises... Quoi? T'as pas un... tu vas pas me faire croire que t'as pas un avis. Alors, bon, déjà, je trouve que, bon, marque employeur, tu le disais en introduction, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau, mais t'as dit 2034. Ben moi, j'ose espérer, ça fait très, on dirait que je vais sortir un truc très solennel, mais pas du tout. Je me dis que d'ici 2034, peut-être qu'on parlera plus de marque employeur, mais tu vois, davantage de marque employée. Parce que, je vais te dire pourquoi je dis ça, j'avais vu, je crois que c'est l'année dernière, j'ai vu un article, je serais incapable de te citer la source, je sais même plus, mais c'était un article en anglais, ça c'est sûr, c'est un truc que j'ai repéré sur un site RH UK qui disait, est-ce qu'on devrait ne plus parler marque employeur, mais plutôt parler marque employée, pourquoi? Parce que ça revient un peu à ce que je disais sur la base de la marque employeur, le fait de se pencher sur l'interne, la fidélisation, mais aussi sur le fait d'inclure les employés dans la stratégie. Et je pense que finalement, c'est un peu ça, une base solide pour une marque employeur, c'est la marque de ses employés, des individus qui constituent l'entreprise avec leur propre personal branding. Alors, c'est très touchy comme sujet parce que j'ai fait un live la semaine dernière, je te disais, on a parlé employé advocacy et je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus touchy parce qu'on n'aborde pas trop l'aspect juridique et légal finalement autour de l'employé advocacy. Et pourtant, il y a plein de choses à aborder comme la liberté d'expression, etc. Mais bon, parenthèse. Mais je pense qu'on parlera davantage de marque employée, ça va prendre de l'essor, ça c'est sûr. L'employé advocacy, on le voit, tout le monde s'y met. On a eu Charlène Emery qui a été précurseur. Précurseuse, ça se dit, sur le sujet, mais on en voit de plus en plus, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, et je pense que d'ici quelques années, ça va prendre de l'ampleur. Alors, à la fois sur le côté, les personnes prennent la parole en tant qu'ambassadeur, mais à la fois sur ce que moi j'évoquais, le fait de créer du contenu, moi en tant qu'entreprise, en incluant les employés dans la stratégie.
L'humain au centre.
Ah oui, toujours.
Ouais.
Ouais.
Bah du coup, tu m'as posé la question. Normalement, il n'y a personne qui me pose la question, mais c'est bien.
Déformation professionnelle d'ex-recruteuse, je veux savoir toi.
Je suis complètement en phase avec toi parce que je pense que l'humain sera au centre réellement et je pense que les réseaux sociaux vont perdre un poil de leur impact en termes d'entreprise en tant que telle. Tu vois ce que tu disais, c'est-à-dire que en termes d'entreprise en tant que telle, si ce n'est pour devenir des petits espaces plus de rappel. Tu vois, je pense que par exemple des newsletters, des espaces de newsletters LinkedIn, de choses comme ça vont être assez intéressantes, qu'ils vont prendre tout leur essor sur la marque employée dont tu parles, l'employé advocacy, parce que c'est ce qui va faire autorité. On sait qu'on va passer à the truth generation, tu vois, le côté, on va essayer de chercher le vrai plus que trouver le faux, tu vois, ce sera plutôt on va chercher le vrai. Et que pour moi, la marque employeur entreprise rejaillira beaucoup plus sur les sites web, tu vois, qui ont perdu, tu sais, on a une bascule qui s'est passée ces dernières années, qui est qu'on a un petit peu délaissé les sites web pour aller vers les réseaux sociaux, tu vois. Je pense que la bascule va se faire en sens inverse, parce que sur le site web, aujourd'hui, on a vraiment tout l'espace pour pouvoir exprimer à plein son ADN, chose que les réseaux sociaux ne font pas, parce que les réseaux sociaux, ça reste de l'immédiateté, ça reste, tu vois, du ponctuel. Et on ne peut pas aller plus en profondeur que ça, si ce n'est un petit peu sur les pages carrière LinkedIn, ouais. Tu vois, ça c'est un peu possible.
Mais est-ce que les entreprises n'attendraient pas à devenir un peu leurs propres médias, tu vois?
Mais c'est ça, c'est exactement ça, qu'elles deviennent leurs propres médias et qu'en gros, les réseaux sociaux soient juste une diffusion, un canal de diffusion de leurs médias.
La promotion de leurs médias sur leur site.
Et que le reste soit sur leur site web, tu vois, j'ai l'impression qu'on repartira là-dessus, la descente, enfin tout ce qui a été là, j'ai pas le mot, mais le désintérêt, pardon, pour les sites en tant que tel, à mon avis, va revenir parce qu'on a reperçu ce qu'on pouvait faire dessus, qu'on pouvait pas faire auparavant. Mais toujours pareil, là je suis complètement d'accord avec toi, avec comme base l'humain au centre, parce que je pense que déjà j'y crois profondément, hein, c'est-à-dire que je reste profondément persuadé que la valeur de base d'une entreprise, c'est l'humain, que les chefs d'entreprise commencent à se redire, ok, c'est vrai que c'est une des possibilités, ils ressortent un petit peu de leur égotisme et de se dire, ah bah oui, j'ai une entreprise qui est extraordinaire, j'ai une marque, j'ai un produit qui est... Non, ton produit, ta marque, elle n'est rien sans les gens qui sont à l'intérieur, clairement. Tu t'appelles pas Apple, tu t'appelles pas Coca, tu t'appelles pas ci ou ça. Donc, ton produit ou ta marque n'est rien sans les gens qui sont à l'intérieur de ton entreprise. C'est eux qui font ta force et ta puissance. Donc, je pense que ça commence un petit peu à rentrer. Ça va de plus en plus rentrer. Donc, l'humain au centre, mais peut-être sur cet aspect un petit peu plus site web qu'autre chose avec les réseaux comme Canon. Tu vois, t'as vu, j'ai plus parlé que toi.
Bah on en reparle dans...
On se refait le live dans 10 ans.
Rendez-vous dans 10 ans, allez.
Merci beaucoup Anaïs.
Mais je t'en prie, merci à toi.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parlera. Je vous mettrai tous les liens, le lien d'Anaïs, ce qu'on s'est dit en commentaire. Si jamais ça vous a plu, mettez un 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Si jamais ça ne vous a pas plu, mettez un 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH, c'est gratuit et c'est surtout fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider, mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous, à très vite.